La grâce et la paix vous sont données en ce matin de Pentecôte à tous au nom du Christ, notre frère, celui qui est là pour nous donner cette Église, toujours inconnue de nous, toujours plus grande que nous croyons, que ce que nous croyons, toujours invisible et en même temps incarnée en vous tous qui êtes ici ce matin. Nous sommes ensemble rassemblés ici dans un matin particulier, un matin où nous nous souvenons du temps de la création d'une Église, notre Église, celle que le Christ donne à travers tous ceux qui ont témoigné par leur foi de ce qu'ils avaient reçu de cet homme qui était venu les rencontrer au nom de Dieu. Nous sommes ce matin aussi dans un temps particulier parce que nous allons vivre deux baptêmes dans une même famille, deux baptêmes d'adultes qui ont entendu l'appel du Seigneur pour eux. Et nous sommes infiniment reconnaissants de pouvoir vivre cela avec vous. Merci d'être là avec toute votre famille. Bienvenue à vous tous ici dans ce lieu. Que cette maison soit la vôtre. Je vais passer la parole à ma consœur Agnès Adeline Schaeffer et je salue particulièrement tous ceux qui nous regardent par le biais d'Internet, qui sont avec nous. Même s'ils sont loin géographiquement, ils sont tout près dans la communion fraternelle.
Prions ensemble. Notre Dieu, en ce matin de Pentecôte, envoie ton Esprit Saint sur nous et accueille ce que nous t'apportons de nos vies. C'est le matin du grand vent qui peut balayer tous nos préjugés sur toi. C'est le matin d'un grand bruit qui nous invite à sortir de nous-mêmes pour aller à ta rencontre. Loué sois-tu. Amen. Et nous nous réunissons maintenant dans la communion fraternelle avec le premier chant du livret qui est inséré au début du psautier français. Et je vous invite à vous lever. Dieu notre Père, c'est de toi que vient toute vie. Tu es présent dans chaque créature. Tu es caché et présent comme la vie au fond de chaque être. Dieu notre Père, si tu te retires, nous périssons. Si tu retires ton esprit, nous ne sommes plus que des cymbales retentissantes et des coques vides. Si tu te retires, notre vie n'est plus qu'une somme de devoirs, et ça, ce n'est plus vivre. Mais si tu renouvelles ton amour, nous pouvons aimer à nouveau. Si tu envoies ton esprit, nous pouvons te reconnaître en tous nos frères et toutes nos sœurs. Si par le Christ tu es vivant en nous, nous sommes vivants en toi. Que l'Éternel se réjouisse de ses œuvres, je me réjouirai dans le Seigneur. Et je vous invite à poursuivre notre louange en prenant maintenant le chant du psaume 47, dont nous chanterons les strophes 1, 2 et 3. Psaume 47 dans le psautier français.
Je vous invite à vous asseoir. Et nous écoutons ce que le Seigneur nous invite à entendre de sa parole dans le prophète Joël. Dieu dit : Je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes. Dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Présentons devant le Seigneur, toi le Dieu de Jésus-Christ, le Dieu du dialogue, le Dieu des relations, le Dieu avec nous dans le monde. Pardonne nos fermetures, nos canons bibliques qui ferment la parole, nos traditions étriquées qui empêchent d'inventer, nos mots standardisés qui ne disent pas la foi avec sincérité. Continue de nous aimer comme nous sommes aujourd'hui et comme nous serons demain. Aide-nous à nous ouvrir à toi, Seigneur. Amen.
Accueillir le pardon que Dieu nous donne, je vous invite à vous lever. Quand Jésus fut baptisé par Jean, les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Alors une voix retentit des cieux : Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en lui j'ai mis toute ma joie. Cet amour de Dieu en Jésus-Christ est donné à tous. Chantons à Dieu notre reconnaissance.
Chers amis, je vous invite à vous asseoir. C'est le moment de la liturgie du baptême. Irène, tu as demandé à recevoir le baptême. Tu peux t'approcher avec tes proches. Je pense que peut-être, Monsieur Mel, vous pouvez venir avec votre épouse. Aujourd'hui, l'Église accueille avec joie ce désir d'être baptisée. Et nous sommes tous en communion avec toi, Irène, pour ce moment si important. Irène, veux-tu confesser ta foi devant cette assemblée ?
Je crois que je suis enfant de Dieu.
Regarde, voilà, on va se mettre par ici. Voilà, voilà. Viens avec moi.
Je crois que je suis enfant de Dieu. Je ne peux rien faire sans lui. Je crois que Jésus est venu pour nous, pour notre bien, pour nous donner la joie et la paix. Je crois que notre secours est dans le nom du Seigneur. Amen.
Merci Irène, merci beaucoup. Et alors aujourd'hui, c'est un jour particulier parce que la maman et le fils se font baptiser le même jour. Et je vais demander à Alexis de me rejoindre. Alexis, tu as demandé à recevoir le baptême ici même aujourd'hui, le jour où ta propre maman va recevoir le baptême. Et je t'invite à confesser ta foi ici, à nous dire le sens de ce baptême pour toi. Je t'invite à me rejoindre.
Aujourd'hui est un moment très fort, car c'est le jour de mon baptême. Et oui, il n'y a pas d'âge pour ce très grand événement. Depuis mon plus jeune âge, Dieu a toujours été présent dans ma vie. Je souhaite qu'il m'accompagne au sein de son Église pour que je continue à grandir, dans l'amour et la foi. Que je sois accompagné de l'Esprit de Dieu tout au long de ma vie pour m'épanouir dans la paix, l'amour, le partage et la joie. Que Dieu éclaire mon chemin et me protège contre le mal. Amen.
Merci Alexis. Voici la volonté de Jésus-Christ pour son Église. Toute autorité m'a été donnée sur la terre. Allez de toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai enseigné. Je suis avec vous, dit le Seigneur, tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Irène et Alexis, l'un et l'autre, vous allez être baptisés au nom du Père, qui vous donne le souffle de vie. Vous allez être baptisés au nom du Fils, Jésus-Christ, mort et ressuscité pour vous, et qui vous appelle à son service. Vous allez être baptisés au nom du Saint-Esprit, qui a fait naître en vous la foi, l'espérance et l'amour. Je m'aperçois que je n'ai pas demandé à la compagne d'Alexis de venir me rejoindre, mais évidemment, elle est avec son mari. Il y a de l'eau ici, de l'eau ordinaire, mais avec la parole de Dieu, cette eau devient l'eau du sacrement du baptême. Eau d'une nouvelle naissance avec Dieu. Chaque jour, notre baptême nous rappelle que, ensemble, nous vivons de son amour. Irène, veux-tu recevoir maintenant le baptême ?
Oui.
Alors, je vais. Et Agnès va m'assister dans ce beau moment. Irène, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit.
Amen.
Irène, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle.
Amen.
Je vais maintenant inviter Alexis à se faire baptiser s'il le désire. Est-ce que tu es toujours d'accord, Alexis ? Alexis, je te baptise au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Amen. Alors c'est Irène qui a, tu vois, qui a emporté ce qui me permet. Alexis, pour toi aussi, cette parole est vraie. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Alors les amis, vous avez reçu ce baptême maintenant. Et vous êtes au milieu d'une communauté qui va maintenant se lever pour vous accueillir, pour dire qu'elle est avec vous, qu'elle est témoin de ces baptêmes et qu'elle est votre famille spirituelle. Chers amis, voici Irène et Alexis. Ils sont ici chez eux dans cette communauté et partout où le Christ est confessé, ils sont chez eux. Vous êtes leur famille spirituelle, vous prierez pour leur famille et pour eux. Vous serez un soutien chaque fois qu'ils auront besoin de cette communauté. Ce sera une joie qu'ils reviennent travailler avec nous à l'annonce de l'Évangile dans cette Église. Mais si jamais ils venaient à s'en séparer pour une raison ou pour une autre, pour quelque accident de la vie qui se produit parfois dans nos vies, vous affirmerez toujours qu'ils peuvent y retrouver leur place quoi qu'il arrive. Vous serez ainsi témoin de l'amour inconditionnel de Dieu pour eux. Voilà. Voilà, je vais vous inviter à la prière. Je vous invite à regagner vos places et nous allons prier ensemble. Père, nous te disons notre joie et notre reconnaissance pour Irène et pour Alexis, qui viennent de recevoir le signe de ta grâce. Nous te prions pour eux et pour leurs proches, et nous te remercions pour notre propre baptême et pour la fidélité de ton amour. Amen. Voilà, je vous invite à prendre place. Voilà, et nous allons chanter maintenant, parce que je crois que j'ai décalé un peu les choses. David, tu ne m'en voudras pas. Voilà, le cantique 202, les strophes 1 et 2.
Ce matin, et ce n'est pas une surprise pour vous sans doute, nous lirons ensemble le chapitre 2, enfin pas tout le chapitre évidemment, mais dans le chapitre 2 des Actes, au verset 1 à 13. Lorsqu'arriva le jour de la Pentecôte, les disciples étaient tous ensemble en un même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un violent coup de vent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues leur apparurent qui semblaient de feu et qui se séparaient les unes des autres. Il s'en posa sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis d'Esprit Saint et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit leur donnait d'énoncer. Or, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel habitaient Jérusalem. Au bruit qui se produisit, la multitude accourut et fut bouleversée, parce que chacun les entendait parler dans sa langue propre. Étonnés, stupéfaits, ils disaient « Ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous galiléens ? Comment se fait-il que chacun de nous les entende dans sa langue maternelle ?» Partes, Mèdes, Élamites, habitants de Mésopotamie, de Judée, de Cappadoce, du Pont, d'Asie, de Phrygie, de Pamphylie, d'Égypte, de Libye cyrénaïque, citoyens romains, juifs et prosélytes, crétois et arabes, nous les entendons dire dans notre langue les œuvres grandioses de Dieu. Tous étaient stupéfaits et perplexes. Ils se disaient les uns aux autres « Qu'est-ce que cela veut dire ? » Mais d'autres se moquaient en disant « Ils sont pleins de vin doux. » Je vous invite à chanter ensemble le cantique 204, les strophes 1 et 2, et nous nous levons. Restez assis, c'est bien. Ne vous inquiétez pas. Je vous invite à la prière.
Qui es-tu, douce lumière, qui m'inonde et éclaire la nuit de mon cœur? Tu me guides avec ta main maternelle. Si tu me lâches, je n'avancerai plus, même d'un seul pas. Tu es l'espace qui environne mon être et dans lequel tu te caches. Si tu m'abandonnes, je tombe dans l'abîme du rien où tu m'as appelé à l'être. Tu es plus proche de moi-même que moi, plus intime que mon intime même. Et pourtant, personne ne te touche ni ne te comprend. Et aucun mot ne peut t'emprisonner. Esprit Saint, éternel amour. Amen. Ils sont pleins de vin doux. Voici une réaction qui en dit long sur la capacité d'une société humaine à accueillir la nouveauté. On préfère se moquer plutôt que comprendre qu'il se passe quelque chose d'inédit. Pourtant, ce jour de Pentecôte à Jérusalem, on est habitué à voir beaucoup de gens différents et à entendre beaucoup de langues différentes. C'est la fête, celle de Shavuot, celle des moissons, où chacun apporte ses offrandes au temple. Une fête propice au brassage de populations, aux rencontres exotiques, au mélange des genres. Eh bien non, pas de mélange même dans cette foule bariolée. Il semble bien que chaque ethnie, chaque origine, chaque région soient bien identifiées et ne doivent pas déroger aux a priori que l'on a sur elles. Un Galiléen, ça ne parle pas grec et ça ne parle pas arabe. Et pourtant, ce jour-là, dans la diversité qui se retrouve en cette ville de David, des Galiléens se mettent à parler dans la langue des autres, celle des Mèdes, des Parthes, des Élamites, dans la langue de chacune des nations qui sont sous le ciel, nous dit le livre des Actes. Et chacun les comprend dans sa propre langue. Faut-il en déduire que de la diversité, Dieu fait une langue unique? Ou au contraire, de la confession de foi unique en Jésus, le Christ, faut-il comprendre la diversité des significations pour chacun? C'est une difficulté toujours d'actualité, de savoir si le christianisme repose sur une confession de foi centrale que les traditions diverses et variées auraient interprétées de diverses façons, ou si la vérité du christianisme se trouve dans la diversité même de ces traditions. À cela, on pourrait objecter quelle importance, après tout, pourvu qu'on ait la foi. Mais l'objection reviendrait à dire que tout se vaut et que l'on peut dire n'importe quoi en théologie sans jamais se tromper, puisque personne n'a jamais vu Dieu.
Une telle attitude serait contraire à toute théologie et peut-être même aussi à toute foi. Car se mettre à l'écoute d'une parole, fût-elle divine, c'est chercher à la comprendre pour mieux la croire. Notre Église protestante unie de France prône le pluralisme théologique, ce qui veut dire qu'elle ne demande pas à ses fidèles d'adhérer à des dogmes préétablis par quelque magistère de l'Église que ce soit. Mais que veut dire pluralisme en matière de religion ? Ne sommes-nous pas chrétiens parce que nous avons un seul Seigneur, le Christ ? Et la question est encore plus épineuse quand on passe aux travaux pratiques. Comment fait-on Église dans ce régime pluraliste ? Bien sûr, nous avons une constitution d'Église, bien sûr, nous nous réclamons d'une histoire commune, celle de la Réforme. Mais à regarder l'état actuel de notre institution, on peut se demander si son pluralisme n'est pas devenu simplement une atomisation de ceux qui s'en réclament, et si les tentatives de sécession de quelques-uns au sein même de notre Église pour défendre un ensemble de normes chrétiennes contre justement ce pluralisme n'est pas le symptôme d'un vide de la pensée du pluralisme. Est-ce que ce n'est pas parce que nous avons cessé de chercher dans cette direction et d'expliquer ce que c'était réellement ? Quand les disciples de Jésus sont réunis dans la salle haute, ils reçoivent chacun une langue de feu et sont remplis d'Esprit Saint, dit le livre des Actes. Ces langues de feu surgissent toutes en même temps et se séparent pour se poser sur chacun d'eux. Qu'est-ce que cela veut dire ? Chacun sa foi et Dieu pour tous. Comment penser cette pluralité sans tomber dans l'écueil facile d'un relativisme théologique sans consistance ? Nous avions déjà, ici même, évoqué l'idée selon laquelle Dieu serait éminemment polyglotte et qu'il parlerait à chacun dans sa subjectivité. Mais il nous faut aller plus loin et affirmer le pluralisme non pas comme une tolérance à toutes les interprétations possibles, jusqu'aux plus perverses possibles, qui finissent par prôner un dogmatisme et un moralisme dur contre le pluralisme. Il nous faut affirmer le pluralisme comme méthode de pensée pour la théologie. Le théologien John Cobb parle de la pluralité comme d'un locus théologal, dit-il, un lieu théologique. Il affirme par cette expression que c'est dans le pluralisme que se trouve ce que l'on appelle Dieu. Dieu n'existe donc pas en soi, c'est-à-dire qu'il n'y a nulle part un Dieu qui existerait hors de toute circonstance, de toute contingence, de toute histoire. Dieu est dans la dynamique selon laquelle une nouveauté peut toujours surgir. Dieu est la puissance du possible. On est loin ici du Dieu qui peut tout, du Dieu qui sait tout, éternel et immuable, et qui réside quelque part ailleurs que dans le monde réel. Dieu est ici l'influence créatrice du monde. C'est à partir de notre monde temporel que nous pouvons trouver Dieu. Le monde des hommes est alors aussi surgissement de nouveautés pour Dieu, qui ne sait pas tout à l'avance. Dieu se laisse changer par les relations avec les hommes. La vérité de Dieu n'est donc plus enfermée au ciel, elle est dans l'incarnation même, dans ce que nous en faisons tous quand nous recevons sa parole, dans la parole de Dieu faite homme, dans la parole faite chair, dans la façon qu'ont les humains de transformer la foi en acte. Et la parole ici n'est pas seulement à comprendre au sens des mots et des phrases qu'on prononce, mais comme la représentation du monde que chacun construit avec sa culture, sa pensée, ses émotions, ses relations. Évidemment, dans une telle pensée, le Christ est central. non pas qu'il soit plus vrai que les autres prophètes qui ont marqué le monde des religions, mais il est spécifique parce qu'il est le symbole entre Dieu et le monde. Il est cet espace où la relation entre Dieu et l'homme peut avoir lieu. Le Christ est un être de relation. Il n'est Christ que par ses relations plurielles suscitées à travers lui entre Dieu et les hommes. Je ne parle pas ici de Jésus l'homme, mais de Jésus en tant qu'il est Christ, c'est-à-dire relation entre la puissance créatrice de Dieu et les êtres humains. Il est locus théologal, lieu où se dit la foi des hommes en Dieu. Comme cet échiquier imaginaire dont parle Leibniz dans les Nouveaux Essais, au chapitre du lieu et de l'espace. Échiquier qu'ont en tête deux cavaliers arabes qui jouent par mémoire tout en chevauchant. Ils ouvrent un espace qui n'a pas besoin d'autre chose de plus que leur relation entre eux pour exister. Imaginez deux êtres qui chevauchent et qui jouent aux échecs l'un avec l'autre alors qu'il n'y a d'échiquier nulle part sauf dans leur tête. Ils construisent un espace, et un espace qui bouge constamment. Eh bien, le Christ, c'est ça. C'est cet espace qui est créé entre nous et Dieu, et qui va changer constamment. Le Christ, c'est cet espace où tous les possibles entre Dieu et l'homme se déploient. Dans cette perspective, c'est dans le pluriel que l'on peut trouver non pas l'unité, non pas l'unicité de sens, car ce n'est pas le but et ce n'est pas possible, mais plutôt la méthode. La méthode que les réformateurs avaient déjà appelée de leur vœu avec le fameux Semper Reformanda. Non pas seulement comme une pratique qui viserait à tout remettre en question sans cesse pour affirmer son individualisme et son pouvoir, mais comme un principe qui prend au sérieux la pluralité. La pluralité des discours sur Dieu et des expériences spirituelles et la limitation que cette pluralité impose. Ne cherchez pas là de stabilité dans une vérité ultime où tous les possibles se réuniraient intimement pour dévoiler la vérité de Dieu. Cette stabilité-là n'est pas à cet endroit. Elle n'est pas ultime devant nous à trouver un jour. Elle est dans l'alliance même, dans la relation, dans la rencontre entre Dieu et l'homme. Chaque fois différente, chaque fois nouvelle, et pourtant toujours selon le Christ. C'est-à-dire une relation où Dieu et l'homme se changent mutuellement et se limitent par leur action dans le respect de l'action de l'autre. Alors il faut prévenir ceux qui prétendent savoir Dieu et qui veulent imposer ce qu'ils appellent sa loi aux autres hommes. Non seulement c'est impossible, mais c'est néfaste à la créativité de la foi. De quel droit jugerait-il la conversation intime de l'homme avec Dieu? Qu'en savent-ils? Une théologie plurielle, qui est à nos yeux celle de la Pentecôte, implique une écoute mutuelle, une relation sans pouvoir sur l'autre, un accueil de Dieu en soi et un accueil de soi par Dieu, là où chacun en est de son histoire, de sa création. N'est-ce pas cela que les disciples vivent le jour de la Pentecôte? Cette fête où l'on apporte à Dieu les premiers pains faits avec sa récolte? Cette fête où chacun apporte une part de son histoire pour l'offrir à Dieu? Une part de ce qu'il est, intimement. N'est-ce pas cette rencontre qui a lieu dans cette chambre haute quand les disciples de Jésus deviennent tous Christ, espace de rencontre entre Dieu et l'homme? Tous porteurs de cette flamme, symbole de leur relation à Dieu qui n'est que la leur, mais qui existe selon la nouveauté constante de Jésus-Christ. Ils étaient tous ensemble dans cette chambre haute et chacun a reçu une langue de feu pour pouvoir parler de sa théologie.
Pierre prendra la parole et fera son discours en reprenant tout ce qu'il considère comme étant l'histoire du salut, telle qu'il la connaît et telle qu'il se l'approprie dans la foi. Et puis, il y a tous les autres. Thomas partira vers des contrées lointaines et fondera des communautés jusqu'en Inde. Et chaque apôtre s'adressera à des publics différents parce que leur sensibilité est différente. Et c'est dans cette sensibilité qu'ils ont reçu l'histoire et l'enseignement de l'homme Jésus, devenu Christ pour eux, mais surtout en eux et par eux, car c'est aussi avec la relation à ses disciples que le Christ est devenu Christ. Chaque disciple du Christ sera lui-même porteur de Christ, comme une part importante de sa vie, comme cette impulsion créatrice qui fait que l'homme, dans la foi, fait les œuvres de Dieu. Aucun ne sera hérétique aux yeux des autres parce que aucun n'aura le monopole de la foi en Christ. Mais chacun restera en relation avec le ressuscité, celui qui leur a appris à être en relation avec le monde d'une certaine façon, qui se laisse transformer, convertir au surgissement de la nouveauté. Ils sont pleins de vin doux. Jugement hâtif de ceux qui pensent que cette effervescence de la foi est une exaction aux règles habituelles établies. Et au lieu d'entendre et de reconnaître qu'ils parlent à tous, chacun dans la langue de l'autre qui les engage dans le pluralisme, ils préfèrent se moquer. La foi en Christ ne se distingue pas de la vie de chacun. C'est parce que nous sommes ce que nous sommes. Toujours en évolution, toujours en construction, toujours en création, que nous apportons à Dieu des sujets de surprise. Et cette nouveauté de nos vies n'est pas un obstacle à notre fidélité. On peut être fidèle dans le changement. Nous sommes tous pétris de circonstances qui font que nous recevons la présence de Dieu dans nos vies d'une façon particulière, singulière. Et le rôle de l'Église, c'est donc d'offrir à chacun cet espace où Dieu peut le rencontrer en toute liberté, sans préjuger de ce que donnera cette rencontre, et sans laisser aucun de ses membres faire de sa rencontre personnelle la norme de toutes les autres. Quand le Christ rencontre Pierre, ce n'est pas la même chose que lorsque Thomas rencontre le Christ. Et quand le Christ rencontre Marie de Magdala, ce n'est pas la même rencontre que lorsqu'il rencontre la Cananéenne. Chacun crée son espace avec l'autre, son espace de foi. Alors quel sens a un baptême dans une communauté donnée si l'on est dans ce changement constant? Ne faut-il pas abandonner tout rite, puisque chacun est différent dans ses relations à Dieu et aux hommes? C'est précisément dans cette différence que se trouve la vérité de notre rapport à Dieu. Le baptême n'est qu'une manifestation particulière de la relation qu'entretient un homme, une femme, une famille à Dieu et à un moment particulier de leur vie. C'est un geste inaugural autant qu'un marqueur de cette relation dynamique de la foi. Et cet événement ne sclérose pas l'avenir. Il y aura encore d'autres événements et d'autres rencontres avec Dieu dans votre vie. Irène voulait ce baptême, et sans doute pour d'autres raisons que celles de son fils. Et Alexis voulait ce baptême à un moment clé de sa vie, avec des raisons qui lui sont propres et qui correspondent à ce qu'il vit en ce moment. Chacun est en relation avec Dieu à sa façon, et leurs mots pour dire leur foi sont les mots d'aujourd'hui pour leur vie d'aujourd'hui. Peut-être que dans 10 ans, ils diront autre chose, et ce n'est pas grave. C'est cette simplicité et cette sincérité que Dieu accueille dans son amour. C'est cette nouveauté de chacun qui est bénie dans ce sacrement. Vous qui venez d'être baptisés, et vous qui êtes témoins de ces baptêmes, soyez heureux. Car c'est Dieu qui suscite en vous la recherche de sa présence,
l'écoute de sa parole, la foi que vous placez en lui. Il vient vous rencontrer et il s'apprête à vous recevoir sans cesse. Et toi, notre Dieu, réjouis-toi de cette confiance qui attend de toi chaque instant de vie nouvelle. Tu n'es pas un Dieu isolé au ciel, tu es Dieu qui vit avec nous et que notre foi révèle. Amen. Merci beaucoup, David, pour cette méditation musicale. Je vous invite à chanter ensemble le cantique 222 dans les louanges et prières, les strophes 1, 2 et 3.
Chers frères et sœurs, tout d'abord, une immense joie de vous voir tous ici réunis dans ce temple à l'occasion de cette fête de Pentecôte. Et puis, permettez-moi de remercier Béatrice, ma consœur, Béatrice Cléromazir, de nous avoir rappelé avec conviction, avec ses mots à elle, ce que Pentecôte voulait dire dans cette théologie plurielle. Cette pluralité qui nous est si chère ici, à l'oratoire du Louvre. Alors, nous allons la mettre en pratique, cette pluralité. Et dès cette semaine, puisque mardi 25 mai, à partir de midi 30, vous pouvez vous retrouver dans ce temple pour continuer la découverte de la parole de Dieu sur le thème de la vulnérabilité.
Oui, nous continuons en fait un parcours, mais c'est très large.
Et mercredi soir, 26 mai, à partir de 18h, pour celles et ceux qui le souhaitent, nous nous retrouverons avec le groupe biblique œcuménique, conduit par le père Yves Trochery de l'église Saint-Eustache et moi-même, où nous passerons de la vulnérabilité de la veille au silence de Dieu ce soir-là. Donc nous continuons le thème du silence de Dieu à travers certains textes bibliques que nous découvrirons à ce moment-là. Salle des colonnes à 18h, église Saint-Eustache. Nous nous verrons jusqu'à 19h30 puisque nous avons droit à un nouvel horaire de couvre-feu.
Oui.
Jeudi midi 30, Donc, nous serons déjà le 27 mai. Vous pouvez aussi venir vous ressourcer tranquillement autour de la pause spirituelle qui a lieu de 12h30 à 13h30, ici même, dans ce temple. Et le texte sera encore une surprise, comme chaque semaine. Vendredi, c'est peut-être relâche.
Enfin...
Nous nous préparons tranquillement au culte du dimanche 30 mais, et là, je te laisse la parole, Béatrice, pour nous annoncer notre invité.
Ah oui, alors dimanche, nous recevons l'imam Fakhar Korshan, qui fait partie de la mosquée Fatima et qui fait partie d'un courant qui remet à l'honneur le mortazilisme. Et le mortazilisme, c'est un courant d'études du Coran avec toute la pensée rationaliste autour du Coran, toute l'étude que nous pouvons faire historico-critique. Eh bien, il y a des gens en ce moment même qui travaillent à tout cela. Et donc, l'imam Fakhar Korshan nous prépare un beau moment où il va commenter une sourate du Coran qui est en lien direct avec nos textes bibliques. Et vous verrez que vous retrouverez beaucoup des personnages bibliques dans cette sourate. Voilà. Et donc, je vous invite vraiment à venir écouter ce discours musulman qui va sans doute nous édifier beaucoup et entretenir notre fraternité. Merci.
Et comme tout ce que nous vivons ici sur le plan biblique, ecclésial, fraternel, ne peut pas se faire sans votre soutien financier, je passe donc la parole à Juliette, notre trésorière, Juliette Wesson.
Bien, bonjour, chers frères et sœurs. Eh bien, au nom du Conseil presbytéral, aujourd'hui, je viens vous parler de la fondation du Temple de l'Oratoire du Louvre. C'est une fondation individualisée, dite abritée sous l'égide de la Fondation du protestantisme et aussi de l'abondement de ses moyens d'action. Alors, si je m'adresse à vous maintenant, c'est parce que seule la fondation abritée du Temple de l'Oratoire du Louvre est habilitée à recevoir des dons déductibles de l'impôt sur la fortune immobilière qui se nomme l'IFI plus couramment. Et aussi parce que les dates limites de la déclaration de l'IFI sont les mêmes que celles de l'impôt le revenu. Donc c'est maintenant que tout peut se faire et que tout don fait avant ces dates est donc déductible de l'IFI. Alors, si je n'ai pas la chance d'être assujettie à l'impôt de la fortune immobilière, cependant, si certains d'entre vous l'êtes ou vos connaissances, je vous invite à donner. Alors, pas tellement aussi, sûrement pour réduire votre IFI à hauteur de 75% de votre don, dans la limite de 50 000 euros, mais pourquoi donner ou donner pourquoi? L'Oratoire du Louvre a besoin de vous pour soutenir des projets qui ne relèvent pas directement de l'association cultuelle Apérole. Il s'agit de mettre en valeur le patrimoine de l'Oratoire du Louvre, c'est-à-dire son temple, classé monument historique, que vous connaissez bien. Son histoire dans l'histoire de France, l'histoire de Paris, 5 siècles d'histoire, et du protestantisme libéral, notamment à compter de 1882. Alors, comment donner? En ligne, sur le site internet de l'Oratoire du Louvre, vous avez depuis quelque temps un bouton qui est dédié et qui apparaît dès la première page du site de l'Oratoire, où il est indiqué « Connexion don IFI déductible à 75% » ou par chèque. Alors, de la fondation du Temple de l'Oratoire du Louvre en l'adressant à la maison presbytérale, 4 rue de l'Oratoire, Paris 1er. Et donner maintenant, oui, parce que c'est pour ça que j'interviens aujourd'hui, c'est parce que je vous rappelle un peu le calendrier de la déclaration donc, des revenus et sur le site desimpots.gouv.fr. Donc, si vous êtes concerné, si vous avez envie de donner à l'Oratoire pour son patrimoine, eh bien, si vous êtes dans les départements 1 à 19, c'est avant le 26 mai à minuit, donc c'est bientôt. 1er juin pour les départements 20 à 54, et vous avez jusqu'au 8 juin. Pour les départements 55 jusqu'à 976, La Réunion, dont Paris. Alors, quelle réduction d'impôt? Il vous est possible de ramener le montant de votre impôt IFI à zéro. Pour connaître le montant du don qui vous permettra de l'annuler, il vous suffit de diviser le montant de votre IFI par 0,75. Voilà, je vous remercie beaucoup de porter cet appel au don, ainsi que de votre générosité. Alors maintenant, c'est le temps de l'offrande. Alors, je vous invite à vivre l'instant d'un geste. Votre don est nécessaire à la vie de notre assemblée, de même que respirer est nécessaire à la vie de notre corps. Souvenons-nous que tout ce que l'être humain possède est don de Dieu. Je vous souhaite un très bon dimanche. Et je vous remercie de votre attention. Sachez que si vous n'avez pas eu le temps de donner ce que vous avez envie de donner, le panier connecté et une aumônière seront présents à la sortie du temple. Merci beaucoup. Très bon dimanche.
Voilà, nous allons vivre maintenant un temps de scène, évidemment toujours un peu spécial. Je sais que ce n'est pas l'idéal, ce n'est pas forcément ce qu'on souhaiterait tous, mais en tout cas, ça nous permet de communier ensemble d'une façon la seule que nous puissions avoir en ce moment, c'est-à-dire que cela permet aux personnes qui ont été baptisées de pouvoir partager une sainte scène ici dans cette église. Donc ça veut dire qu'on leur laisse la primeur de la Sainte Seine parce qu'il faut limiter à 6 personnes cette Sainte Seine. Et puis nous avons donc la possibilité tous d'être par l'esprit, comme ces cavaliers qui jouent aux échecs par la mémoire. Hein. Nous allons être ensemble par l'Esprit Saint, par la communion fraternelle, mais dans notre cœur et dans notre tête. Ensemble dans cette Sainte Seine, et nous allons communier ensemble de cette façon. Et je vous invite à préparer tout de suite le cantique 150 dans vos louanges et prières pour pouvoir prendre part à cette Sainte Seine de votre place en pensant à ceux qui partagent ce pain et ce vin aujourd'hui. Merci. Alors je vais demander à Irène, à Alexis, aux deux sœurs d'Alexis de nous rejoindre et à Monsieur Mel aussi. Voilà, si vous voulez bien, alors voilà. Alors vous voyez, même à très peu nombreux, c'est compliqué. Voilà, et donc vous. vous partagerez cette scène aujourd'hui, continuité du sacrement que vous avez reçu tout à l'heure.
Louons Dieu. Dieu notre Père, quel bonheur de t'adorer partout et à tout moment. Quelle joie de te dire merci pour le Christ, ton Fils. Sa venue dans le monde a fait lever l'aube de ton règne d'amour. Humain parmi les humains, vivant jusqu'au bout, ton pardon et ta paix. Il nous a fait découvrir notre véritable humanité. Condamné au supplice de la croix, il s'est dépouillé de tout pouvoir et de tout prestige pour nous rendre libres de te servir. Ressuscité, il est le messager d'un monde nouveau, d'où toute oppression, toute larme, tout mal disparaîtront. C'est pourquoi, avec celles et ceux qui ont vécu et proclamé cette espérance pendant tant de siècles, avec ton peuple assemblé ici et partout, nous célébrons ton nom et nous te chantons. Et nous... Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous. » Car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, désormais je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père.
Père invité à ta sainte scène, nous faisons mémoire des paroles et des gestes de Jésus-Christ, de sa mort, de sa résurrection. Et dans la confiance, nous te présentons notre monde. Nous te prions pour tous ceux que tu nous mets en mémoire et que nous voulons associer à cette scène. Nous te prions, Seigneur, pour ceux qui ont reçu le baptême aujourd'hui, Irène et Alexis. Qu'ils soient sans cesse dans cette dynamique d'amour inconditionnel de Dieu. Qu'ils puissent déployer ce sacrement reçu aujourd'hui dans leur vie personnelle, dans les relations qu'ils entretiennent avec tous ceux qu'ils rencontrent. Qu'ils soient témoins de ton amour dans ce monde. Nous te prions, Seigneur, pour nos églises, toutes différentes, nos communautés si composites, qui changent sans cesse, dont les limites sont inconnues. Donne-nous, Seigneur, de ne pas avoir peur de cette pluralité qui est la richesse même de nos églises. Donne-nous toujours d'être respectueux avec la foi des autres et de pouvoir affirmer que dans ton cœur il y a de la place pour chacun et que personne n'est l'hérétique de l'autre. Nous te demandons, Seigneur, plus que la tolérance, nous te demandons de nous mettre au cœur l'amour du prochain. Que nos églises soient le témoignage vivant de cet amour que tu commandes à chacun, que nous puissions le vivre réellement avec toi dans ce monde. Et ensemble, nous te disons, comme les disciples l'ont appris du Seigneur, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Siècle des siècles. Amen. Le pain que nous partageons est communion au corps du Seigneur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang du Seigneur Jésus-Christ.
J'invite l'Assemblée à prendre le chant du cantique 150, les strophes 1, 2 et 3, dans le recueil Louanges et prières.
Père, nous te remercions pour ce repas. Tu nous as rendus proches de toi. Élargis l'espace de nos vies, donne-nous de cueillir, d'accueillir, de recueillir les êtres et les événements qui surviennent sur nos chemins. Nous ne pouvons pas faire cela sans toi. Accorde-nous, Seigneur, ta force et ton amour. Amen. Frères et sœurs, ce temps était un temps de halte, un temps où nous avons créé l'espace où le Seigneur pouvait nous rencontrer, un temps où nous l'avons rendu visible, cet espace, entre nous tous. Que chacun reparte d'ici avec la conviction que cet espace est en lui et entre lui et tous ceux que nous rencontrons dans ce monde. Soyez convaincus que chaque jour, cet espace est nouveau et le lieu de la nouveauté de Dieu. Recevons la bénédiction de la part de Dieu. Le Seigneur, de toute grâce, vous bénit et vous garde. Amen.